Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours.
Un couvre-feu des 18h dans tout le pays, c'est l'option choisie par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Pas de reconfinement, donc pour l'instant, l'option reste sur la table. Les écoles vont, elles, bien rester ouvertes, mais avec un protocole sanitaire renforcé dans les cantines. Nous verrons ce qu'en pensent les proviseurs. Vigilance renforcée aux frontières, nouvelles aides pour les entreprises. Point complet sur toutes ces annonces dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, Renault s'inspire du passé pour préparer l'avenir. Près de 50 ans après son lancement, la R5 va faire son retour. Design dépoussiéré et moteur électrique. Le démantèlement d'un trafic d'armes hors normes, 10 personnes interpellées, dont 2 militaires en activité. Le boulanger de Besançon en grève de la faim a eu gain de cause. Son apprenti guinéen menacé d'expulsion vient d'être régularisé. Et puis Tintin bat encore des records. Un dessin d'Hergé a été vendu aujourd'hui 3,2 millions d'euros. La météo, prudence, 11 départements du Nord-Est sont ce soir en vigilance orange neige-verglas. Demain, le temps sera ensoleillé et lumineux sur la moitié nord. Plus hivernal et gris dans le sud, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,33% à 5 681 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot ce soir de boursier.com. L'interview éco, dans 20 minutes, nous dépensons près de 1 700 euros par an pour se chauffer. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Frédéric Houtzmann, président d'EFI, Société de Conseil en Économie d'Énergie. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le couperet est tombé, ce sera donc 18h pour tout le monde. Couvre-feu avancé à l'ensemble du pays, a annoncé tout à l'heure le Premier ministre.
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours. Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. À l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduit à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité.
Nous préparer à toute éventualité, dit Jean Castex. Il faut dire que la situation sanitaire reste très fragile. 16 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, c'est 30% de plus que la semaine dernière. Et c'est d'autant plus inquiétant que les Français se sont bien comportés pendant les fêtes, a indiqué le Premier ministre. Victor Delande, faisons un point avec vous sur les annonces du Premier ministre. Tout d'abord, donc, ce couvre-feu avancé et élargi.
Oui, un couvre-feu national à partir de 18h qui commencera dès samedi. Le Premier ministre Jean Castex s'est appuyé sur une donnée très intéressante pour justifier cette mesure. Dans les départements qui ont mis en place un couvre-feu, les contaminations augmentent 2 à 3 fois moins rapidement que dans les autres départements. Une mesure de freinage censée réduire les contacts sociaux, donc entre 18h et 20h. Le Premier ministre a invité les commerces à ouvrir plus fréquemment entre midi et 2 pour éviter des rassemblements trop importants à la fin de la journée. Dès que possible, il incite également les commerces à ouvrir le dimanche pour compenser leur baisse d'activité. Mais attention, ce nouveau couvre-feu n'interdit pas un reconfinement, comme vous l'avez entendu juste avant. Si les courbes de contamination devenaient plus inquiétantes dans les prochaines semaines, le gouvernement n'hésitera pas à acter un troisième confinement sur l'ensemble du territoire.
Et on n'en est pas encore là. Bonne nouvelle en revanche pour les écoles. Contrairement à beaucoup de nos voisins, elles vont rester ouvertes, mais avec un protocole sanitaire renforcé, Victor.
Oui, Jean Castex a pris l'exemple de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Italie qui ont décidé de retarder la rentrée des classes au retour des fêtes ou de fermer tout simplement les écoles. Le gouvernement ne veut pas le faire pour le moment. En revanche, le protocole sanitaire sera renforcé notamment dans les cantines. On le sait, les repas sont vraiment le moment le plus à risque pour les contaminations. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donc expliqué qu'il n'y aura pas de brassage possible entre les élèves de différentes classes. Les enfants déjeuneront donc avec leurs camarades de la même classe. Il y aura aussi davantage de services pour laisser le moins d'élèves possible dans les réfectoires. Des repas emportés pourraient être actés dans certaines écoles, mais ce sera décidé au cas par cas. Toutes les activités sportives extrascolaires en intérieur sont désormais interdites. Pour les lycéens, l'enseignement hybride, c'est-à-dire à moitié en présentiel et à moitié en distanciel, reste la norme. Ça deviendra également une possibilité pour les élèves de 4e et de 3e. Enfin, 300 000 tests seront réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires pour surveiller au plus près les contaminations.
Merci Victor Dolande. Et justement, concernant ce protocole sanitaire renforcé dans les écoles, écoutez la réaction du représentant du syndicat des proviseurs, SNPDEN, et lui-même proviseur à Vincennes, Bruno Bobkiewicz, est ce soir pour le moins perplexe.
Sur la cantine scolaire, objectivement, je ne vois pas quelle est la marge de manœuvre supplémentaire. Tout ce qui avait déjà pu être mis en œuvre depuis le deuxième confinement l'a été. Hein. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin. J'ai entendu la possibilité qui a été donnée concernant les repas à emporter. On a quand même des normes d'hygiène qui s'imposent aussi dans les établissements scolaires. Hein. Donc, on ne peut pas déjeuner n'importe où. Et d'ailleurs, sous la surveillance de qui hein. Donc, c'est ça aussi, ça pose question sur la faisabilité de la demande. Aucune évocation préalable concernant l'EPS, par exemple. Hein, donc, ça veut dire que là, il faut qu'on réfléchisse à comment on réorganise le temps scolaire. Est-ce qu'on fait des modifications d'emploi du temps? Est-ce que les professeurs d'EPS doivent prendre les élèves en classe et proposer d'autres activités à la place?
Propos recueillis par Virginie Riva. Notez que dans les universités, les étudiants de première année pourront reprendre par demi-groupe les travaux dirigés en présentiel, et ce, à partir du 25 janvier. Nous suivons de très près les nouveaux variants, a martelé ce soir Jean Castex. Il y a l'anglais, vous le connaissez, le sud-africain, le japonais et maintenant le brésilien. Voilà pourquoi des mesures de restriction d'urgence vont être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à La Réunion. Pour l'Hexagone, les conditions d'entrée sur le territoire vont également être durcies. Dès lundi, toutes les personnes venant de pays extérieurs à l'UE devront obligatoirement présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour pouvoir entrer en France. Concernant maintenant la campagne vaccinale, le chef du gouvernement a annoncé l'élargissement du public qui pourra recevoir une injection à partir de lundi. Outre les plus de 75 ans hors EHPAD, les quelques 800 000 personnes présentant des pathologies à haut risque pourront elles aussi se faire vacciner, et ce, quel que soit leur âge. Enfin, concernant les entreprises, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé l'élargissement du fonds de solidarité et la prise en charge jusqu'à 70% des coûts fixes. Par ailleurs, les sociétés ayant contracté un prêt garanti par l'État pourront bénéficier auprès de leur banque d'un an de plus pour débuter le remboursement.
Europe 1, le 22-22-30.
Renault lance sa Renault Lution, nouvelle stratégie pour le groupe automobile qui souhaite avant tout redresser ses marges et préparer l'avenir. Il sera électrique, ça concernera la moitié des véhicules au Losange d'ici 4 ans. Parallèlement, Renault va aussi miser sur le vintage avec le retour de modèles iconiques, Aurélien Fleureau.
Exactement, ce plan stratégique passe d'abord par de nouveaux modèles et comme il l'avait fait avec succès pour la Fiat 500, Luca De Meo, directeur général de Renault depuis 6 mois, s'inspire de voitures qui ont marqué leur époque pour les mettre au goût du jour. Place donc à la R5 100% électrique.
Cette voiture a la mission de démocratiser, de rendre populaires les voitures électriques et je pense que ça c'est une mission typique dans l'histoire de Renault. Et on le fait avec une touche d'un point de vue de design qui va réchauffer les cœurs de beaucoup de Français. Et j'ai toujours pensé que l'âme des constructeurs automobiles est dans ses racines, donc c'est un de ces produits qui fera retrouver l'âme à la marque Renault.
Elle arrivera sur le marché en 2023, 3 ans pour sortir une voiture plutôt que 4 ou 5 ans auparavant. C'est l'autre volet de ce plan stratégique, gagner en simplification, en efficacité grâce à des plateformes communes, avoir des équipes dédiées à chaque marque, Renault, Dacia, Alpine, Mobilize pour les services connectés. Luca De Meo a également tenu à rassurer les salariés qui demandaient des garanties sur les emplois et le futur des sites industriels. Pas d'inquiétude, a répondu le nouveau patron. Pas de fermeture envisagée à Dieppe, notamment pour Alpine. Et puis cette future R5 électrique devrait être fabriquée à Douai.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Forte hausse des demandeurs d'emploi aux États-Unis. Sur une semaine, près d'un million d'Américains se sont inscrits au chômage. C'est 200 000 de plus que la semaine précédente. Et c'est dans ce contexte de crise que Joe Biden présente ce soir les bases de son plan de relance. Le futur président a promis des milliers de milliards de dollars et d'agir vite, autrement dit dès son arrivée à la Maison-Blanche mercredi prochain. La cérémonie d'investiture se déroulera sous très haute sécurité. 15 000 soldats de la garde nationale seront déployés à Washington et quelques stars seront présentes, dont la chanteuse Lady Gaga qui interprétera l'hymne américain. Venons-en maintenant à cette affaire exceptionnelle que viennent de boucler les policiers de la brigade de répression du banditisme. On parle là d'une des plus importantes saisies d'armes jamais réalisées en France. 10 personnes interpellées et parmi eux, 2 militaires encore en activité, Chloé Triomphe.
Oui, 2 militaires dont l'un serait en poste au ministère de la Défense et l'autre affecté sur une base en France. Mais ce n'est que la partie visible d'un réseau très organisé selon une source proche de l'enquête, puisqu'en garde à vue depuis mardi se trouvent aussi d'anciens militaires, un emploi jeune de la police ou encore des personnes travaillant dans le domaine de la sécurité. Au total, 10 personnes dont 2 membres présumés de l'extrême droite, dont l'un fiché par les services de renseignement. Tout ce petit groupe est soupçonné d'avoir acheté et remilitarisé des armes pour les revendre avec un système de distribution qui irrigue toute la France, à commencer par la région parisienne. Les enquêteurs en ont saisi des centaines et continuent à en faire le décompte précis, mais les premiers éléments laissent entrevoir un volume hors norme d'armes mises à disposition de toute nature et de toute catégorie, que ce soit des armes de poing, des fusils d'assaut, des munitions ou encore de la poudre.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Le livreur Deliveroo qui avait refusé de servir des juifs à Strasbourg a été condamné aujourd'hui à 4 mois de prison ferme. Il avait refusé de prendre en charge les commandes de 2 restaurants cachers. Il s'agit d'un jeune Algérien en situation illégale qui fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Lui, en revanche, va pouvoir rester en France. Lui, c'est cet apprenti boulanger de Besançon sous la menace d'une reconduite à la frontière. Son patron, dont vous avez peut-être entendu le témoignage sur Europe 1, était en grève de la faim pour dénoncer l'expulsion de ce jeune Guinéen de 18 ans. Yasmina Katou, tout s'est accéléré aujourd'hui.
Absolument. Ce matin à 8h15, Sonia Mabrouk recevait Elisabeth Borne. La ministre du Travail a été interpellée sur Europe 1 sur le cas de ce Guinéen apprenti boulanger qui risquait l'expulsion alors qu'il travaille en France depuis 2 ans.
Je suis vraiment aussi bien sensible, évidemment, à l'émotion que ça suscite. Et je vous dis, ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement, quand un jeune mineur arrive en France, qui fait une formation, que ça se passe bien, alors il peut continuer à travailler en France. Là, on a un cas particulier. Il y a une procédure judiciaire. Moi, je ne vais pas me prononcer dessus.
Si le gouvernement a dû se positionner sur le cas de l'apprenti boulanger qui se prénomme Lai, c'est parce que l'affaire avait pris de l'ampleur ces derniers jours. Des personnalités politiques, des artistes ont apporté leur soutien au boulanger en grève de la faim. Les médias allemands, italiens et même libanais ont relayé l'affaire. Tout cet emballement a, selon Stéphane Ravaclet, le boulanger, accéléré le dénouement que l'on connaît aujourd'hui. À 13h, le boulanger et son apprenti ont été convoqués par la préfecture de Haute-Saône qui leur a annoncé la régularisation de Lai.
C'est une victoire totale pour moi, je vais enfin pouvoir manger. Et pour là, il est sauvé, il va pouvoir passer son CAP, puis voilà, et ça ne fait que commencer.
Et quelle a été la réaction de Lai, votre apprenti ?
Il est très très heureux, il est enfin soulagé de pouvoir vivre pleinement sa vie comme il le désire.
Et sa vie, elle reprend dès mardi. Lai peut désormais reprendre sa place d'apprenti boulanger à la Huche à Pain à Besançon. Stéphane Ravaclet promet de l'embaucher une fois diplômé.
Merci Yasmina Katou. C'est du jamais vu dans le monde de la bande dessinée. Un dessin d'Hergé a été vendu aujourd'hui aux enchères 3,2 millions d'euros. Le père de Tintin l'avait imaginé pour illustrer la couverture de l'un de ses plus célèbres albums, le Lotus Bleu. Diane Chedouda, c'est d'autant plus fou que ce dessin n'a finalement pas été retenu.
Et oui, mais c'est un chef-d'œuvre, hein, une encre de Chine, gouache et aquarelle, réalisée par Hergé en 1936. Une pièce exceptionnelle, rarissime. C'est la première fois qu'elle était mise sur le marché. On voit Tintin en tenue chinoise, caché dans une jarre, face à un énorme dragon rouge sur fond noir. Ce premier dessin n'a finalement pas été retenu car il coûtait trop cher à reproduire. Du coup, selon la maison Arcurial, Hergé l'aurait donné en cadeau au fils du patron des éditions Casterman quand il était enfant. Et ce sont ses héritiers qui l'ont mis aux enchères aujourd'hui. Une vente animée par le commissaire-priseur Arnaud Oliveau de la maison Arcurial.
Pour cette œuvre exceptionnelle, nous allons débuter les enchères à 1 500 000, 1 600 000, à 1 600 000, 1 700 000, 1 700 000, 1 800 000.
Et les enchères grimpent très vite.
1 900 000 par mois ici, à 1 900 000. Je vais adjuger à 2 600 000 et sans regret, c'est votre enchère Bruno. J'adjuge à 2 600 000, adjugé 2 600 000. Eh bien, je peux vous annoncer que Cette pièce est le nouveau record mondial pour une pièce dans l'univers de la bande dessinée.
Et oui, ce trésor revient à un collectionneur privé qui a déboursé au total 3 200 000 euros frais compris. C'est en effet le record mondial de vente pour la bande dessinée et un nouveau record pour Hergé, puisqu'en 2014, un lot de pages de Garde était parti à plus de 2,5 millions d'euros.
Merci Diane Chénouda du service culture d'Europe 1. En sport, c'était ce soir le coup d'envoi du mondial de handball qui se dispute en Égypte et les Bleus ont parfaitement débuté la compétition. Ils viennent de l'emporter face à un gros client, la Norvège. Victoire 28 à 24. Le prochain match samedi, ce sera à 18h face à l'Autriche. La météo, attention dans le nord-est. 11 départements sont toujours ce soir en vigilance orange-neige vert. Il s'agit du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, du territoire de Belfort et du Pas-de-Calais, qui est en plus concerné par des vigilances pluie, inondations et crues. Je reprends mon souffle, Anissa Haddadi, le temps demain sera encore couvert dans l'Est.
Oui, et on n'en a pas fini avec les chutes de neige, Julien, puisque des Vosges aux Pyrénées, en passant par le Massif central et les Alpes, il neige demain encore à basse altitude, voire même en pleine, en particulier dans le centre-est. Donc soyez encore prudents, surtout si vous devez prendre la route demain matin. Le ciel est gris sur cette région de la France avec des chutes de neige et surtout des averses de pluie qui viennent se mêler à tout ça dans la journée. Au bord de la Méditerranée, le temps là reste ensoleillé, le temps est sec, mais le vent souffle toujours très fort. La tramontane pourra en pointe atteindre les 110 km/h demain. En Corse, le temps est agité avec des pluies soutenues, voire même orageuses. Partout ailleurs, sur la moitié nord du pays et la façade atlantique, là c'est un temps sec et un vendredi plutôt agréable puisque nous aurons sur ces régions de belles éclaircies. Les températures, elles restent de saison même si elles ont beaucoup baissé sur le nord-est avec moins 4 à 0 degrés à l'est du pays, 1 à 8 degrés partout ailleurs et puis au meilleur de la journée, même principe, il fait plus froid au nord-est avec 0 à 4 degrés. 4 à 9 en général sur le reste du pays et jusqu'à 13 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Nous dépensons près de 1700 euros par an pour nous chauffer. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Frédéric Houtzmann, président d'EFI, société de conseil en économie d'énergie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à tous, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street reste hésitant ce soir dans l'attente du plan de relance budgétaire que compte mettre en place Joe Biden dès son arrivée à la Maison-Blanche.
Oui, oui, ça tergiverse. Hein. À Wall Street, le Dow Jones repère finalement 0,22%. La séance était plutôt à la hausse. Ça s'est replié dans les dernières minutes de cotation. Le Dow Jones à 30 991 points. Le Nasdaq, petite baisse légère, moins 0,12%, 13 113 points. Effectivement, cette présentation attendue du plan de relance budgétaire par Joe Biden fait hésiter le marché. Ce sera dans quelques minutes. Hein. Et là, on parle maintenant d'une aide directe au ménages américains qui seraient fixés à 1400 dollars par ménage et non pas 2000 dollars. C'était attendu ces derniers jours. Ça a fait monter la bourse et il y a quelques jours de cela. Et là, on serait plutôt sur des chiffres inférieurs aux attentes avec un package global à un montant de 1500 milliards de dollars d'aide. Donc, les valeurs de technologie redescendent. Il y a toujours l'affaire Twitter hein, qui agite le marché avec la suspension du compte de Donald Trump. Twitter perd encore 3%. Même chose sur Snap qui recule de 8%. Là aussi, Donald Trump a été radié de Snapchat et donc ça baisse fortement sur Snap, la maison mère de Snapchat, à 49 dollars ce soir. Et puis Microsoft repère 1,5%, Facebook 2,4%, Intel en revanche remonte encore de 4% après le changement de management, plus 4% à 59,25 sur Intel. Le pétrole remonte 1,5% de mieux ce soir, 53,60 le baril, ça donne Exxon en hausse de près de 4%. L'euro est plus calme, 1,2160 face au dollar.
Retour en France où la bourse de Paris a encore légèrement progressé de 0,3% sur le CAC 40 en clôture.
Oui, oh, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Le CAC 40 à 5681 points, plus 0,33% exactement. Les prises de risque sont très limitées dans ce contexte, hein, toujours difficile d'un point de vue sanitaire.
quelques progressions à signaler quand même du côté du secteur aéronautique qui avait beaucoup baissé, qui remonte un petit peu. Airbus plus 4,5%, Thales plus 3%, Air France KLM repasse les 5 euros, plus 3% à 5,06 €. Et puis Figeac Aero regagne 2,5%. À noter aussi Accor Hôtel qui reprend 2% ce soir à la clôture.
L'exception du jour est encore à chercher du côté du secteur de l'automobile avec Renault qui a terminé en baisse.
35,43 €, oui, moins 1% Renault. La direction du groupe a présenté son plan très attendu, son plan de reconquête appelé Renault-Lution. Alors le groupe vise une marge opérationnelle supérieure à 3% d'ici 2023 et puis d'ici 2025 on sera à 5% avec une neutralité carbone d'ici 2050, un plan d'attaque donc qui a été annoncé dans le détail, qui fait la part belle évidemment à l'électrique. Pour l'instant, le marché est assez sceptique, il est prudent. Le Renault, donc le titre Renault, ce soir en baisse d'1% à la clôture, à 35,43 €. Sur les autres places financières, ça remonte un petit peu sur le DAX à Francfort, plus 0,3%, à Bruxelles, plus 0,4%, à Madrid, plus 0,14%. De petites hausses, donc, à l'image du CAC 40, en hausse de 0,33% ce soir, 5 681 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de Boursier.com et à demain. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Frédéric Huttmann.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président d'EFI. EFI, c'est une société de conseil en économie et d'énergie. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous avez fait sortir ce matin une étude pour savoir combien ça nous coûte de se chauffer chaque année. Le résultat est quand même assez édifiant hein, puisque c'est très coûteux. 1 684 € en moyenne si on veut être très précis avec, et c'est ça peut-être encore plus qui nous intéresse, avec des disparités énormes en fonction des sources de chaleur.
Exactement. La facture d'énergie est très différente suivant l'énergie de chauffage et la surface de la maison. C'est deux facteurs qui impactent très fortement. L'énergie qui coûte le plus cher aux Français aujourd'hui, c'est le fioul, avec un peu plus de 2 100 € par an qui sont dépensés. Donc c'est un mois de salaire hein, pour beaucoup.
Un gros mois de salaire, hein, puisque le salaire moyen est même assez nettement inférieur à ça.
Exactement. Et par contre, le chauffage le moins onéreux, c'est le chauffage au bois, avec 1 147 € en moyenne.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que vous disiez, tout dépend de la taille. Quand on regarde votre chiffre, on pourrait se dire, bah tiens, par exemple, se chauffer à l'électricité, ça fait partie des sources d'énergie qui sont les moins chères. Ben non, parce que dans la plupart du temps, on a plutôt une petite surface quand on se chauffe à l'électricité. En revanche, quand on ramène ça à une surface moyenne, par exemple, comme celle du fioul, on se rend compte que c'est très cher de se chauffer à l'électricité.
Exactement, les Français dépensent en moyenne un peu moins de 1 800 € pour leur chauffage lorsqu'ils ont une énergie qui est l'électricité. Par contre, si on ramène ça au mètre carré, c'est 16 € par mètre carré, ce qui est l'énergie en fait la plus chère au mètre carré.
Oui. Alors tout ça s'inscrit dans le fait, vous parliez du fioul hein, qui coûte par exemple très cher. On sait que maintenant les chaudières au fioul vont être interdites à partir du 1er janvier 2022, en tout cas pour les installations. Hein, ceux qui en ont vont bien évidemment pouvoir continuer de les utiliser. Mais on voit qu'on est vers la fin du fioul malgré tout, qui est pourtant encore aujourd'hui extrêmement utilisé.
Mais c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Hein. Le fioul est une énergie qui coûte cher, comme on le disait, mais qui est aussi émettrice de beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, c'est l'abandon du fioul est une bonne chose et ça va dans le sens de l'histoire. Mais cela dit, il faut faire attention parce que pour beaucoup de ménages, changer sa chaudière au fioul, c'est onéreux. On a fait une petite étude là aussi sur les gens qui étaient chauffés au fioul. La majorité d'entre eux nous disent qu'en fait, ils aimeraient bien changer leur énergie de chauffage. Hein, 63% des gens qui sont chauffés au fioul, mais 73% d'entre eux, les trois quarts, vous disent « oui, mais en fait, c'est trop onéreux et je ne peux pas ». Et donc, ça pose un problème.
Alors, ça pose un problème. Malgré tout, tout ça s'inscrit dans l'élargissement et dans la simplification de ce qu'on appelle MaPrimeRénov', hein, qui est le nouveau moyen simplifié et unifié pour avoir des aides pour changer notamment sa chaudière, mais également pour se lancer dans de gros travaux de rénovation énergétique. Hein, tout le monde y a le droit, maintenant sans condition de revenu, mais plus on gagne, moins elle est importante. Malgré tout, là, ça peut aider et ça va être un élément déterminant, j'imagine, pour évoluer sur sa façon de se chauffer.
Effectivement, beaucoup de Français l'ignorent, mais il existe des aides importantes et qui sont accessibles à la plupart des ménages français. Deux types d'aides, MaPrimeRénov, que vous mentionniez, qui est une aide donnée par l'Agence nationale de l'habitat, et des aides qui sont fournies par les fournisseurs d'énergie et de carburant, qui sont des primes certificats d'économie d'énergie et qui sont cumulables et qui viennent les compléter. Le niveau de ces aides dépend des revenus, de la composition du ménage et de la zone géographique. Donc le mieux, c'est d'aller faire des simulations sur Internet de manière à calculer ce à quoi on a le droit quand on réalise ces travaux.
Bien sûr, hein. Frédéric Huzman, je rappelle que vous êtes le président d'EFI, société de conseil justement en économie d'énergie. Quand on a une telle facture aux alentours de 1 700 € en moyenne, quels sont les moyens pour la réduire, cette facture ?
Il y a beaucoup de Français qui se posent la question. On a entre 2 et 4 000 demandes par jour de particuliers qui effectivement se posent des questions et qui ne savent pas trop par quel bout attraper le sujet. C'est vrai qu'il est compliqué et nos conseillers leur répondent. Il y a d'abord des actions qu'on peut faire sur la maison, le bâti, de manière à ce que la maison perde moins d'énergie. C'est l'isolation, avec une priorité qui est l'isolation des combles et des toitures. Parce que la chaleur monte et donc du coup, quand les toitures ne sont pas isolées, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de couvercle sur une casserole, on perd beaucoup d'énergie. Et donc la première action, la plus rentable, la plus simple à faire, c'est l'isolation des combles, en particulier quand elles ne sont pas habitées ou pas utilisées. Une deuxième action qui peut être réalisée là aussi simplement, rapidement, efficacement, c'est l'isolation des planchers bas. Quand la maison est sur un vide sanitaire, sur des caves ou un parking, à ce moment-là, isoler le plafond de ces caves est une opération relativement simple à réaliser qui permet d'économiser jusqu'à 10 à 15 % de son énergie.
C'est d'autant plus important au moment où on télétravaille de plus en plus, hein, parce que là, vous donniez des chiffres sur 2020 où il y a déjà eu un moment important de télétravail, mais on sait que tout simplement, on chauffe plus son habitat quand on est à la maison également dans la journée.
Exactement, et ça, on a fait quelques études qui le montrent très clairement. Le confort est important et quand on télétravaille, je dirais même que on est souvent un peu statique, parce que si vous êtes dans votre maison en train de bouger, vous n'avez pas la même sensation que si vous restez pendant 2 heures devant un Zoom. Et donc, la sensation de froid, là aussi est plus importante, ce qui est une deuxième raison de pousser le thermostat vers le haut et donc de consommer plus.
Pour se chauffer, effectivement. En tout cas, un grand merci Frédéric Huzman. Je rappelle que vous êtes le président d'EFI, société de conseil en économie d'énergie, et que vous avez fait sortir ce baromètre sur combien on paye pour se chauffer. Et donc, 1 684 € sur l'année 2020. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Emmanuel que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Ils parleront de la mode du sans-alcool alors que de plus en plus de Français font le dry January, le janvier sans-alcool en bon français. Leur invité Marie-Laure Berny-Tarente, une des patronnes de Pernod Ricard. Et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux qui, sans surprise, sont nombreux à revenir sur les annonces ce soir de Jean Castex. Couvre-feu, dernier arrêt avant confinement, titre l'Opinion. Nouveau tour de vis, peut-on lire à la une de Ouest France. À 18h, terminus, tout le monde chez soi, écrit Libération. Libé qui publie une enquête sur ce mal invisible qui ronge notre jeunesse. La santé mentale des étudiants mise à fac, titre le quotidien. Isolement, angoisse liée à l'enseignement à distance, précarité, syndicats et enseignants s'alarment de l'état de détresse des jeunes. Un constat que n'a d'ailleurs pas nié ce soir le Premier ministre qui a annoncé, je vous en parlais dans ce journal, un retour très progressif pour les premières années. Jean Castex et la ministre de l'Enseignement supérieur qui recevront demain les représentants de la communauté universitaire. Autre conséquence de la crise sanitaire, nullement tragique celle-là, plus de la moitié des paiements par carte se fait désormais sans contact, titre Les Échos. En décembre, cela a représenté 52% des paiements par carte, alors qu'en 2019, seuls 38% des transactions bancaires étaient réalisées sans taper un code confidentiel. Une tendance qui devrait se poursuivre, d'autant que 80% des commerçants sont désormais équipés des lecteurs adéquats. Après les impôts, les amendes, les quittances de crèches et d'hôpital, il sera bientôt possible de payer ses factures de gaz et d'électricité chez le buraliste. C'est ce que nous apprend le Figaro Écho. La FDJ et la Confédération des buralistes veulent proposer ce nouveau service pour tous ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas acquitter leurs notes en ligne ou par prélèvement automatique. C'est aussi une manière pour les buralistes de compenser un peu le recul des ventes de tabac. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Je vais très bien.
tant mieux, 3921 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et nous on se retrouve pour le flash d'ici une petite demi-heure.
À tout de suite.